Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, troisième rendez-vous ce soir consacré à des colonies. Décoloniser l'histoire, comment faire, comment sortir du vis-à-vis colonial entre l'Algérie et la France, par exemple, comment sortir de cette obsession algérienne de la France. Pour en parler et pour parler aussi d'histoire de l'immigration, d'histoire de l'ordre, d'histoire de la police, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro l'historien Emmanuel Blanchard. Emmanuel Blanchard, bonsoir.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin. Vous avez l'année dernière publié ce formidable petit repère aux éditions La Découverte, histoire de l'immigration algérienne en France. De cela aussi, on va parler. Mais vous avez d'abord travaillé sur la police. Votre premier livre, paru aux éditions Nouveau Monde en 2011, s'intitulait « La police parisienne et les Algériens, 1944-1962 ». C'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, être historien de la police, vraiment ?
Être historien, sûrement pas. De la police,
pas davantage,
encore moins.
Oui.
Et on peut dire, avec la trajectoire que vous avez brièvement résumée, Patrick Boucheron, que beaucoup de chemins peuvent mener à une histoire coloniale, et en particulier à une histoire de l'Algérie, tant les histoires françaises et algériennes sont imbriquées, ce qui est un peu une des thèses de ce petit ouvrage, qui cherche à mettre en évidence que certes, il faut sortir de l'obsession algérienne, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des singularités à la situation franco-algérienne qui tiennent au fait, notamment que l'immigration algérienne en France ne peut pas être comparée terme à terme avec beaucoup d'autres immigrations. Avoir une perspective générale sur les migrations, et pas simplement l'immigration d'ailleurs, est une nécessité pour comprendre ces mouvements qui amènent depuis plus d'un siècle des Algériens et des Algériennes en France. Mais partir d'une perspective globale nous fait rater d'une certaine façon le fait qu'on n'a pas des histoires qui sont des histoires de connexion, mais des histoires d'imbrigation. Mmh. Et des imbrigations qui sont violentes. Puisque, bien sûr, et c'est le sujet en partie de cette série d'émissions, c'est ce qu'on peut appeler rapidement le choc de la colonisation, mais ici dans une longue durée et d'une violence de très longue durée, qui a fait des Algériens des Français pendant plusieurs décennies, près d'un siècle. Les Algériens ont été du point de vue juridique, du point de vue national des Français, et qui a fait pendant quelques décennies qu'il y avait une relative liberté de circulation entre les deux rives de la Méditerranée.
Donc on voit bien que cette histoire, elle met en jeu, ben, je dirais, le questionnaire général des historiennes et des historiens, question de connexion et question de temporalité, c'est-à-dire ce moment colonial de longue durée, tout de même, où est-ce que, comment on le borne historiquement ? J'ai l'impression que dans ce que vous écrivez, Emmanuel Blanchard, il y a une tension entre, disons, une chronologie courte, qui est celle effectivement de votre zone de compétence, vous êtes historien du XXe siècle, et puis aussi la question des rejeux d'une histoire beaucoup plus longue, en particulier sur cette, de part et d'autre, des rives de la Méditerranée.
Effectivement, ces historicités mêlées, ce temps long, est nécessaire à la compréhension du présent singulier. Puisque ce qui rend l'immigration algérienne en France singulière, d'une certaine façon, c'est qu'aujourd'hui encore, près de 90% des Algériens qui vivent à l'étranger vivent en France. Or, deux siècles plus tôt, il y avait déjà des Algériens à vivre à l'étranger. On ne les appelait pas des immigrés à l'époque, ni des émigrés, bien sûr, mais ces circulations se faisaient sur d'autres aires régionales, et des aires régionales beaucoup plus diversifiées. L'historienne Jocelyne Darlia, une moderniste, a montré que le moment de 1830, ce qui est couramment présenté comme le début de la colonisation, mais qui est sans doute plus simplement le moment de la conquête d'Alger, est un moment qui est très difficile à percevoir pour beaucoup d'historiens des colonisations, puisqu'il se place dans une zone instable, dans le moment de ce que d'aucuns appellent les premières colonisations, et les colonisations modernes, les colonisations des 19e et 20e siècles. Et Jocelyne Darlia a très bien montré comment ce moment n'est pas un moment de rencontre, effectivement, pas simplement et en partie cependant par le choc de la violence, mais c'est plutôt un moment de séparation. Cette Méditerranée, qui était un lieu de connexion d'élites, de marins, de galériens aussi.
Le monde de la lingua franca.
Exactement, le monde de la lingua franca, qui a aussi été analysé par Jocelyne Darlia. Cette Méditerranée, d'une certaine façon, va devenir un espace de séparation. Mm-hmm. Pas forcément une séparation totalement géographique, mais de plus en plus une séparation juridique, du fait du primat du national, qui n'existait pas dans le monde moderne, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que les Algériens qui, du temps de l'Empire ottoman, étaient du sujet ottoman, qui vont devenir des sujets français, ils vont avoir pour seule nationalité disponible dans ce monde de domination, la nationalité française. Puisque pour les colonisateurs, il était inenvisageable que quelques décennies après la conquête de 1830, à partir du moment où la nationalité devient cardinale dans ce monde européen et dans ce monde des colonisations, les Algériens et les Algériennes puissent prétendre à une autre nationalité. D'où le Senatus Consulte de 1865.
Cette nouvelle historiographie d'un moment colonial élargi, plus attentive effectivement à ces temporalités mêlées, enchevêtrées, elle rappelle aussi l'ancienneté de la présence en France, notamment des populations musulmanes. Ça, c'est pas votre sujet, mais ça s'intègre.
Effectivement.
Ça s'intègre tout de même dans le paysage.
Oui, vous avez raison, Patrick Bouchon, de rappeler qu'il y a aujourd'hui des travaux longs qui rappellent que cette Europe dite chrétienne a connu une présence qu'on va qualifier de musulmane, mais c'est très souvent beaucoup plus compliqué. Les historiens et les historiennes qui ont travaillé sur la question ont montré comment la labellisation des populations se faisait par-delà leurs véritables pratiques religieuses, est une présence longue. Et à Marseille, avant la période coloniale, il y a déjà des quartiers qui sont présentés comme des quartiers orientaux, où certaines populations sont considérées comme musulmanes, voire algériennes, puisque le terme existe à cette époque, mais sans renvoyer à une appartenance nationale.
Aujourd'hui, les deux communautés les plus importantes, les communautés étrangères en France, même si effectivement étrangers pour les Algériens, on va y revenir, posent bien des difficultés de terminologie et de qualification, ce sont les Portugais et ce sont les Algériens, et ce sont deux histoires très différentes dans l'histoire de l'immigration.
Effectivement, si on s'intéresse au moment et à la statistique, on pourrait d'une certaine façon avoir des comparaisons relativement aisées entre les immigrations portugaises et les immigrations algériennes. Les spécialistes de l'immigration portugaise, nous pouvons notamment penser à Victor Pereira, rappellent d'ailleurs souvent que ces immigrations ont été mises en vis-à-vis d'une certaine façon pour augmenter le caractère désirable de l'immigration portugaise et au contraire...
On disait peu politisée, qu'on disait laborieuse, etc.
Exactement. Une immigration qui n'aurait pas posé problème avec en miroir une immigration tout aussi nombreuse mais qui était présentée comme posant problème, une immigration d'indésirable, l'immigration algérienne. Or ces deux immigrations sont issues d'histoires et de trajectoires très différentes. Ce qui fait la spécificité, la singularité de l'immigration algérienne, c'est que nous avons affaire à une immigration qui est de masse, pour le dire relativement simplement, depuis un siècle, depuis la Première Guerre mondiale. Et dans l'histoire de France, hein, il n'y a pas d'autre immigration qui ait eu une telle durée, sinon l'immigration italienne, mais cette immigration italienne, aujourd'hui, elle n'est plus renouvelée. Alors que l'immigration algérienne, même s'il n'y a pas des centaines de milliers d'Algériens à s'installer chaque année en France, elle continue d'être renouvelée. Et elle continue d'être renouvelée par des populations qui peuvent être des populations particulièrement pauvres et particulièrement visibles dans l'espace public. Ce qui fait que le stigmate de la pauvreté et donc le stigmate de l'immigration reste attaché aux Algériens, alors même que l'immense majorité des Algériens et de leurs descendants et de leurs descendantes sont invisibles dans l'espace public, tout simplement parce qu'ils appartiennent de longue date aux petites classes moyennes, voire aux classes beaucoup plus CSP+, comme on dit aujourd'hui, qui a fréquenté un hôpital, une université en France, c'est le poids de cette immigration dans un certain nombre de métiers. L'immigration portugaise, effectivement, en termes de nombre, nous avons affaire aux deux populations étrangères ou immigrées qui sont les plus nombreuses en France. Elle est une immigration qui est liée à une histoire courte.
Oui.
Bien sûr, il y a des Portugais en France depuis des siècles. Bien sûr, on en relève dès après la Première Guerre mondiale en nombre un peu plus grand. Mais le passage à l'immigration ouvrière, à la visibilité immigrée, à leur poids démographique important, est lié à la fin de la période Salazar, à la fin de l'Empire colonial aussi portugais, avec nombre de jeunes hommes qui arrivent clandestinement en France pour éviter la mobilisation qui les envoie notamment au Mozambique. Et on a des arrivées qui sont très concentrées sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, du début des années 60 au milieu des années 70.
Et là, effectivement, vous venez de prononcer le nom Emmanuel Blanchard. C'est aussi un contexte colonial, dans le cas, mais différemment, dans le cas portugais. Toute la difficulté de l'histoire de l'immigration, c'est au fond de gérer son rapport avec l'histoire coloniale. C'est-à-dire que la querelle dite post-coloniale, elle propose bien là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que, d'une certaine manière, la situation coloniale dit le tout de l'histoire de l'immigration? Dans le cas de l'Algérie, c'est quand même très particulier.
Effectivement. Dans le cas de l'Algérie, nous pourrions dire, avec Abdelmalek Sayad notamment, que cette immigration est née de la colonisation. Mais est-ce que le cas de l'Algérie est étendable, peut être étendu à d'autres immigrations? Sans doute qu'il faudrait affirmer un non assez péremptoire pour aider à la compréhension. Ainsi, aujourd'hui, quand vous enseignez l'histoire de l'immigration devant des classes de lycéens, par exemple, il y a une tendance à rabattre sur l'histoire de l'immigration, sur une histoire coloniale, sur des questions raciales, d'ailleurs très souvent labellisées comme cela par les étudiants et les étudiantes eux-mêmes et elles-mêmes, alors même qu'effectivement, dans la longue durée, cette histoire de l'immigration s'est nourrie d'autres mouvements qui n'étaient absolument pas liés à l'histoire coloniale, qui étaient en tout cas en grande partie déconnectés de cette histoire coloniale. Nous avons cité précédemment dans la conversation l'exemple italien. L'exemple italien tient à la proximité, tient à la pauvreté, tient à ces gradients entre régions plus ou moins rurales, à la démographie plus ou moins importante, attirée vers d'autres régions à plus haut degré d'emploi. Tout tient à des trajectoires de très longue durée. La vallée de la Roya, étudiée par Lucie Bargel dans la longue durée, est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Mais il est vrai que, à la fois chronologiquement, avec ce qui est parfois appelé les dernières vagues d'immigration, même si je n'aime pas ce vocabulaire en termes de déferlante, d'une certaine façon, disons que le renouvellement des migrations s'est fait en partie par l'histoire coloniale, mais peut-on considérer par exemple que c'est l'histoire coloniale qui explique les arrivées de Chinois et de Chinoises de telle ou telle région en France? C'est sans doute beaucoup plus compliqué que cela. Et le surgissement dans une chronologie un petit peu décalée de l'histoire de l'immigration comme sujet reconnu, comme sujet débattu, comme sujet enseigné, avec le retour d'une histoire coloniale pensée dans des nouveaux termes, a pu effectivement conduire à considérer qu'elle devait forcément être mêlée. Alors même que si elles doivent l'être dans le cas de l'Algérie, par exemple, il appartient aussi à celles et ceux qui l'enseignent de les singulariser, de les distinguer pour faire prendre conscience de phénomènes de longue durée.
Alors là, vous posez les questions au fond du devenir actuel de l'histoire de l'Algérie, coloniale, Emmanuel Blanchard, aussi plus attentive à ces questions des mondes mêlés. C'est aussi là-dessus que vous travaillez, c'est-à-dire à émousser, au fond, le tranchant, écrivez-vous, entre colonisés et colonisateurs. Parce que il y a, lorsque on voit de près, comme vous le faites en historien, eh bien, des situations d'entre-deux, ne serait-ce que parce que vous avez travaillé sur le maintien de l'ordre.
Alors,
l'ordre colonial.
Effectivement, Patrick Bouchon, ces situations entre deux sont extrêmement nombreuses, l'immigré étant la représentation paradigmatique de cette situation d'entre deux, et vous nous invitez ici à essayer de penser ce qui a pu être parfois appelé des mondes du contact. Ces mondes du contact ne sont pas forcément des mondes iréniques. Ces mondes du contact, ce sont ces mondes où, de par la construction d'un appareil bureaucratique, bien qu'il n'ait que peu pénétré dans les mondes ruraux, par exemple, de par la construction de cet appareil bureaucratique, des personnes ont été amenées à la fois à vivre une partie de leur vie dans le formulaire, dans le questionnaire, dans les traitements proposés par l'administration coloniale, et à être issues très directement de ce monde décolonisé. On pourrait penser à la figure du garde champêtre, on pourrait penser à la figure du policier, qui sont paradigmatiques de ce monde du contact, mais qui sont aussi paradigmatiques de l'importance de la répression coloniale. Ces mondes du contact sont de toute façon, très largement liées à la violence. La violence de l'appropriation linguistique ou de l'expropriation linguistique qui fait que l'on considère généralement que ce monde du contact se fait par l'intermédiaire de la langue française, puisque la lingua franca a disparu avec la colonisation et que la langue arabe, qui sert de truchement dans d'autres régions coloniales, en Afrique de l'Ouest par exemple. Camille Lefebvre l'a très bien expliqué, comment les militaires français en Afrique de l'Ouest essaient d'administrer en langue arabe des régions dont ils ne comprennent pas les langues vernaculaires. En Algérie, cette langue arabe est rabaissée au rang de langue étrangère et il est imposé aux colonisés de s'adresser aux autorités dans la langue du colonisateur.
C'est aussi une manière de reconnaître des formes de domination sans hégémonie. En somme, vous l'avez fait dans un numéro que vous avez coordonné de la revue Genèse en 2012, qui s'intitulait « Ordre colonial » et qui justement était attentif à ces mondes du contact. Et puis actuellement, Emmanuel Blanchard, vous travaillez sur une source particulière qui concerne les Kabyles dans les années 30.
Oui, je travaille actuellement sur ce qu'on appellerait des requêtes, donc qui voilà une forme d'adresse à l'administration et à l'autorité qui est très bien connue, notamment des historiens modernistes. Je m'appuie en particulier sur les travaux de Simona Cerutti pour essayer de penser que demandent, que souhaitent ces milliers de Kabyles, puisqu'effectivement mon corpus est constitué de lettres qui viennent avant tout de cette région, notamment parce que c'était la principale région de départ des Algériens et des Algériennes, des milliers de lettres qui s'adressent aux autorités à la fois en Algérie mais aussi en métropole pour rechercher une personne, essayer de mettre fin à un contentieux sur la propriété foncière, démêler des affaires d'héritage. Et ce qui est très intéressant avec ce type de sources, qui sont à 99% en langue française, puisque ces personnes ont intégré que si elles veulent obtenir une réponse, elles doivent écrire en langue française, alors même que l'administration française s'appuie en Algérie sur des caddis qui, eux, écrivent en arabe et sont traduits par traducteur français ou algérien. Ces lettres, elles nous donnent à voir qu'une toute petite partie des horizons et des attentes des personnes qui écrivent. Tout simplement parce que les contentieux qui sont soumis à l'administration coloniale connaissent aussi d'autres circuits que l'on pourra qualifier de vernaculaires. Les djemaas, ces assemblées qui sont à la fois officielles dans l'Algérie colonisée, mais il reste des assemblées que l'on qualifiera de véritablement vernaculaires. Le truchement de la mosquée, du voisinage, des prépondérants, mais dans des systèmes qui sont pas le système colonial, qui sont des systèmes locaux ou des systèmes religieux, permettent à ces personnes de jouer sur différents registres dans un monde qui, il faut le rappeler, est un monde de très fort pluralisme juridique.
Oui.
Et donc ça parle aux modernistes, Patrick Bouchon, je présume. Ce monde des années 30 en situation coloniale est un monde de très fort pluralisme juridique où pour démêler un mariage et un héritage, on peut faire référence au droit dit coutumier berbère, au droit musulman, au droit français. Et il est nécessaire d'avoir des arbitrages juridiques qui parfois sont donnés par les autorités coloniales elles-mêmes pour savoir si à un moment donné tel ou tel droit peut s'appliquer alors même que les personnes jouent sur ces différents tableaux.
Et là, les requêtes, elles sont adressées à l'administration coloniale par des familles, disons de la paysannerie rurale en voie de déstructuration, c'est ça, qui ont perdu en fait des hommes qui sont partis en banlieue parisienne. En gros, c'est ça l'itinéraire moyen, au fond, qui est documenté par ces archives sur lesquelles vous êtes actuellement.
Effectivement, ce qui fait le socle commun de ce massif documentaire, c'est que dans ce jeu complexe des acteurs qui sont en relation, il y a au moins une personne émigrée en France. La première lettre a pu être adressée à une autorité locale, un préfet, un administrateur de commune mixte, un procureur, mais du fait que dans l'héritage, par exemple, il y a en jeu, et dans toute famille en Kabylie, il y avait quasiment un émigré le plus souvent en région parisienne, la lettre est partie de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc elle nous donne à voir des circuits administratifs qui, effectivement, sont complexes et relativement inhabituels. Elle donne d'une certaine façon une singularité à cette source qui est très éclatée. Ça nous permet de voir comment les personnes s'adressent à des administrations très diverses et quels circuits elles voudraient privilégier, alors même que parfois on les ramène à d'autres circuits qui semblent plus congruents avec leur statut de sujet coloniaux. Et cette relative homogénéité du corpus ne doit pas nous faire oublier qu'il ne donne à voir qu'une toute petite partie des vies de ces personnes.
Oui, et on est effectivement, vous le rappeliez, dans cet empire du droit, pour parler comme Emmanuel Saada, ou des droits, justement, avec une pluralité juridique, qui fait que vous, historien de l'immigration, et historien aussi de l'ordre colonial, vous faites historien des statuts, inévitablement, Emmanuel Blanchard. C'est-à-dire que, au fond, ce qui est déterminant à plusieurs moments de cette histoire, c'est la qualification juridique.
Effectivement. Je voudrais pas m'aventurer avec vous, Patrick Broucheron, trop loin dans l'histoire des statuts à l'époque moderne, mais il est évident que dans ces années 30, nous avons une partie des personnes qui se présentent sur le mode de la supplique, c'est-à-dire que placées dans des positions où elles ne peuvent plus en référer à des personnes qui, d'une certaine façon, leur garantissent un minimum, elles sont obligées de s'adresser à une forme de souverain, qu'est l'administrateur colonial, souverain à qui elles disent, il est de votre devoir, puisque vous avez le pouvoir dans cette région du monde, de m'assurer un minimum vital. C'est des lettres qu'on voit très fortement sous la plume de veuve, par exemple, qui rentre dans cet idéal type de la supplique. Mais nous avons d'autres personnes, à partir du moment où notamment elles ont une maîtrise personnelle de la langue française, parce que beaucoup de ces lettres sont écrites par le truchement d'un écrivain public, d'un proche, plus ou moins proche d'ailleurs. Ces lettres nous donnent aussi à voir des personnes qui demandent à être considérées comme des administrés, voire comme des citoyens, puisqu'il y a aussi un embryon de citoyenneté dans cette Algérie des années 1930.
Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de l'historien Emmanuel Blanchard qui est venu avec ses têtes raides, mais pas seulement les têtes raides.
Effectivement, les têtes raides ici sont accompagnées de Katab Yassine, qui est l'auteur de ce texte « Dans la gueule du loup », un texte qui a été publié en 1962 dans le mensuel « Jeune Afrique » et qui fait référence, les auditeurs et les auditrices l'auront compris, au massacre du 17 octobre 1961. Et il me semble que ce texte est très intéressant du point de vue de ce qui nous fait converser depuis le début de l'émission, Patrick Bouchon, de cette imbrigation franco-algérienne au travers de la figure de Katab Yassine. Katab Yassine, qui est extrêmement connu pour avoir eu cette citation sur la langue française comme butin de guerre, qui le pose effectivement en personnage de l'entre-deux, mais un entre-deux qui n'est pas l'entre-deux de l'accommodement ou de l'accommodation. Kateb Yassine était foncièrement nationaliste. Ce qui l'a rendu écrivain, ce sont les massacres du Constantinois en 1945, qu'il a tenu à dire dès ses premières œuvres publiées dans Esprit au tout début des années 1950. Hein. Mais Kateb Yassine est un nationaliste qui n'est pas un militant du Front de Libération Nationale. Oui. Militant et adhérent du Front de Libération Nationale, qui se sont fait tuer pour plusieurs dizaines d'entre eux, au moins le 17 octobre, dans les grandes démonstrations de masse qui ont ressurgi dans l'histoire française depuis deux décennies environ, et qui alimentent un flux relativement important de production culturelle, que ce soit des romans policiers au début des années 80 avec Didier Daninx, des chansons de rap, des chansons telles que celles des Têtes Raides, des bandes dessinées. On a affaire
à... Le théâtre avec Alexandra Badea aujourd'hui.
Effectivement, on a une production culturelle extrêmement importante sur un événement qui est sans doute un des rares événements, on peut toujours être démenti quand on dit un des rares événements qui avaient disparu complètement des mémoires, en tout cas des mémoires scolaires, des mémoires historiennes relativement larges, et qui aujourd'hui occupent une place relativement cardinale, du moins dans des formes de reprise dans les cultures populaires.
Avec une inversion de relief mémoriel, si j'ose dire, puisque le massacre de Charonne oblitérait le 17 octobre et qu'aujourd'hui, maintenant, ça serait presque l'inverse parce que, au fond, les mémoires militantes sont plus actives aujourd'hui sur le 17 octobre.
Effectivement, les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui connaissent peu ce qui s'est passé le 8 février 1962, alors qu'une partie d'entre eux connaît ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Mais du point de vue des trajectoires mémorielles, le passage d'une mémoire du mouvement ouvrier à une mémoire dite postcoloniale, c'est pas fait d'une certaine façon dans une dynamique unique. On a affaire ici dans les occultations de octobre 1961 à la fois à un mensonge d'État qui a peu à voir finalement.
Vous êtes un des historiens, vous y travaillez.
Après beaucoup d'autres, hein, il faut notamment rendre hommage au pionnier qui a été Jean-Luc Einaudi et aux travaux des historiens britanniques Jim House et Neil McMaster. Et ce mensonge d'État a été accompagné de l'autre côté de la Méditerranée par le fait que du point de vue de l'État FLN, la mémoire était aussi mise en lumière sur d'autres événements et d'autres victimes. La centaine de victimes de l'automne 61 n'étant pas plus valorisées que les centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes ayant succombé pendant la guerre d'indépendance d'Algérie.
Et puis dans votre grande thèse sur police contre FLN, vous intégrez de toute façon ces massacres coloniaux qui sont, avant d'être des massacres, des manifestations algériennes. Il faut aussi le rappeler parce que vous faites une histoire à parts égales, Emmanuel Blanchard. C'est-à-dire que vous rappelez aussi que d'abord, le 17 octobre, ce sont des Algériennes et des Algériens qui sortent dans la rue parce que la rue n'est plus à eux, parce qu'à ce moment-là, il y a des attentats de l'OAS tous les jours et qu'au fond, c'est une manifestation aussi de présence.
Bien sûr, nous avons une nouvelle fois affaire à une question de point de vue ou de focale. S'intéresser simplement aux massacres policiers, qui bien sûr est singulier, est d'une violence extrême, doit être comparé aux massacres perpétrés dans d'autres régions de l'Empire colonial, à Alger en 1960, à Casablanca en 1952, mais aussi dans l'Empire britannique. Mais si on met l'accent simplement sur cette histoire de la chaîne de commandement qui conduit peut-être du général de Gaulle à la matraque du policier, on oublie complètement que les Algériens et les Algériennes qui sont sortis dans la rue ce soir-là ne se sont pas vécus simplement comme des victimes. Quand ils prennent la plume, et à chaque fois qu'on prend la plume, on prend la plume dans un système de contraintes, dans une forme de récit, et nous les récits qui nous sont donnés à voir, ce sont avant tout les récits qui ont été demandés par la Fédération de France du FLN. Et dans ces récits, qui bien sûr sont empreints d'une relative tonalité militante, mais qui descendent très bas dans les échelons de la Fédération de France du FLN, bien sûr, il est évoqué la violence des sbires de Papon, selon les termes qui sont souvent utilisés à cette époque-là. Bien sûr, il est évoqué des disparus, dont personne ne sait s'ils ont été tués, s'ils sont enfermés au parc des expositions ou à Vincennes, s'ils ont été expulsés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce qui est avant tout dit dit, c'est la fierté d'avoir bravé le couvre-feu, la fierté d'avoir dit au monde entier, puisque Paris avait été choisi comme capitale, pas simplement de l'Empire, mais aussi une capitale de la presse internationale, avoir dit au monde entier que cette immigration participait de la lutte de libération nationale.
Et ça, évidemment, c'est une manière de contribuer à cette nouvelle histoire de la guerre d'Algérie, menée par d'autres aussi, Sylvie Thénault, Raphaël Branche, qui fait non seulement, comme l'ancienne génération, Charles-Robert Ageron, etc., l'inventaire des occasions manquées, mais aussi des mondes mêlés, de tout ce foisonnement de mouvements. Il n'y a pas que le FLN, il y a aussi effectivement tous les autres mouvements nationalistes qui sont très, très cruellement réprimés. Et donc, c'est un monde extrêmement complexe aussi qui s'ouvre dès lors qu'on le regarde ainsi.
À chaque fois qu'on essaie de désimbriquer cette imbrication franco-algérienne, effectivement, on s'affronte à des complicités extrêmement fortes. Si on veut comprendre pourquoi les pères se sont tus, qui a été une grande question à partir du moment où la jeunesse dite immigrée, dite de seconde génération, alors qu'il y avait des descendants d'immigrés algériens depuis déjà plusieurs décennies, est apparue sur la scène politique au mi-temps des années 1980, avec en particulier la grande marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, la grande question, c'est pourquoi les pères se sont tus. Mais ces pères avaient été extrêmement actifs dans la lutte pour l'indépendance, et s'ils ont peu parlé, par exemple, du 17 octobre 1961, puisqu'effectivement, s'il y avait des mémoires souterraines du 17 octobre 1961, elles passaient simplement par les fractions les plus politisées, que ce soit celle de l'immigration algérienne, mais surtout celle de l'extrême gauche. C'est ainsi, par exemple, que Jean-Luc Enodi est venu à cette histoire, par le truchement de Georges Mattei, qui avait été un soutien très fort du FLN. Il faut se souvenir que ses pères sont restés en France. Et à la fois, ils étaient très fiers d'avoir manifesté ou pas ce jour-là, puisqu'il y a beaucoup plus d'Algériens qui n'ont pas manifesté que d'Algériens qui ont manifesté. Et en même temps, ils ne pouvaient pas dire toute leur contribution à la lutte pour l'indépendance nationale, parce qu'ils tenaient aussi à ménager une place à leurs enfants sur ce lieu. Pas forcément un pays, hein, c'est beaucoup plus souvent une ville, une localité, dont ils pensaient pour beaucoup repartir, mais où ils sont pour beaucoup restés.
Et puis, ils sont restés avec un statut particulier aussi, puisque nous parlions tout à l'heure de l'histoire de la nationalité. Évidemment, tout change à partir de 1962, et ça, c'est fondamental pour poursuivre notre histoire de l'immigration algérienne en France, dont je rappelle que vous avez écrit l'année dernière à la découverte la synthèse.
Vous avez raison, Patrick Boucheron, de rappeler que ce moment en 62, c'est un moment non pas simplement d'indépendance pour l'Algérie, et il faut rappeler la force qu'a été cette indépendance pour l'Algérie. Alger, d'une certaine façon, devient la capitale du tiers-monde, c'est le pays montré en exemple chez les non-alignés ou dans le mouvement dit tiers-mondiste, mais c'est aussi un grand moment de reconfiguration pour la France. Puisque, d'une certaine façon, on assiste à...
C'est la République post-algérienne.
C'est la République post-algérienne, avec un rétrécissement de la définition de la citoyenneté française. Rappelons simplement que dans l'Assemblée élue en 1958, il y avait 50 députés dits français musulmans. Et donc, on va avoir, à partir de 1962, un moment où des personnes qui n'avaient jamais été françaises, c'est le cas de quelques milliers de personnes de confession juive du Mzab au sud de l'Algérie, qui vont devenir françaises en 1962. Et au contraire, le cas de environ 9 millions d'Algériens, donc simplement quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers à l'époque, vont choisir de conserver la nationalité française et dont les autres vont prendre la nationalité algérienne. Mais ça va pas, d'une certaine façon, désimbriquer ces mondes. Le grand rêve, d'une certaine façon, du général de Gaulle, en 1961, dans les négociations qui sont en cours, il y a l'idée que les Algériens qui sont en
vont
France
repartir.
Vont repartir.
C'était ça son idée.
C'était une idée très forte, avec une partie du patronat qui disait « Mais attention, on n'en voulait pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui on arrive à des problèmes de main-d'œuvre, selon le langage du patronat, qui font que on pourra peut-être pas tous les renvoyer, pour le dire de façon extrêmement simple. » Et ce monde n'advient pas. Et ce monde n'advient pas et va devenir de plus en plus complexe, puisqu'à l'intérieur d'une même famille algérienne vont cohabiter des personnes qui vont avoir des nationalités différentes. Il faut rappeler déjà qu'entre 1962 et 1967, il est possible, pour des Algériens qui vivent en France notamment, mais il y a d'autres possibilités, de demander à garder la nationalité française. Donc il y a tout un jeu, les personnes ont des papiers dont elles se défont ou elles ne se défont pas. Marc-André a très bien étudié ça pour la ville de Lyon. Il est possible à ce moment de jouer sur un trouble dans la nationalité. Et ce trouble de la nationalité va devenir extrêmement fort si l'on tient compte du fait que, mettons une famille arrivée en France dans les années 50, dont les enfants nés en France ou en Algérie d'ailleurs, vont en 1962 suivre la nationalité des parents. Ils vont tous devenir Algériens, dans 99% des cas. Un petit frère ou une petite sœur naît en 1964 à Roubaix, à Marseille ou à Asnières. Ce petit frère ou cette petite sœur sera nationalité française. Il sera nationalité française par la vertu du double droit du sol. Double droit du sol qui est en partie lié à une histoire algérienne, puisque c'est depuis une grande loi de 1889, analysée notamment par Patrick Veil, qu'il est obligatoire pour toute personne présente depuis deux générations sur le sol français de prendre, de se voir imposer la nationalité française dès la naissance. Ça répondait à deux logiques, une logique de conscription qui est bien connue, mais aussi une logique dite de peuplement de l'Algérie. Il fallait faire en sorte que les Italiens ou les Espagnols présents en Algérie deviennent français pour que dans ces départements dits français ne s'amalgament pas des colonies étrangères, toujours pour reprendre le langage de l'époque. Et cette loi de 1889 va réintroduire un siècle plus tard un grand trouble dans la nationalité quand des agitateurs politiques, puis de plus en plus la droite française vont se rallier à l'idée qu'il n'est pas possible que des personnes soient françaises malgré elles. Comme si les Algériens, les descendants de ces Algériens, étaient les seules personnes dont la nationalité était imposée en vertu de prescriptions juridiques et non pas d'un choix. Et ça va amener à cette grande bataille des années 80 et 90 sur est-ce qu'il ne faut pas manifester sa volonté de devenir français.
Et voilà pourquoi la France n'en a pas fini avec ce que Tom Sheppard appelle son obsession algérienne. Les dernières nouvelles en date de ce trouble dans la nationalité, c'était en 2015, le 14 novembre 2015 précisément, la proposition par le président François Hollande de la déchéance de nationalité. Et là, vous citez dans un article paru dans La Vie des idées, « État d'urgence politique et spectre de la guerre d'Algérie », le titre d'un journal satirique algérien, El Manchar, au lendemain du premier tour des élections régionales de décembre 2015, terrorisme, état d'urgence et victoire d'un parti extrémiste, l'Algérie dépose plainte contre la France pour plagiat. Bon, c'est assez drôle, mais c'est tragique en même temps parce que on comprend bien que, voilà, les spectres reviennent.
Les humoristes algériens ont su beaucoup naviguer sur la vague du tragique et de ce qui fait mal mais fait rire. Et c'est ce qui a permis aussi à beaucoup d'Algériens et d'Algériennes de supporter leurs conditions politiques ces dernières décennies. Et Manchar est représentatif de cet humour qui s'exprime aussi beaucoup plus souvent en langue arabe. Mais ce qui est très important ici, c'est effectivement, à chaque fois que la France est frappée par une vague de terrorisme, les réflexes qui reviennent peuvent parfois, d'une certaine façon, chez les plus savants, renvoyer à quelles ont été les réactions au terrorisme anarchiste de la fin des années 1890, du début des années 1890 jusqu'au début du XXe siècle, ces fameuses lois scélérates. Mais le terrorisme dans la France de la Ve République, c'était avant tout ce terrorisme dit nord-africain, ce terrorisme du FLN, puisque c'était ainsi qu'était labellisée la lutte pour l'indépendance menée par le Front de Libération Nationale, qui avait ouvert à certains moments, en 1958, en 1961, un second front en métropole.
Ce moment-là, c'était la loi de 1955 qui était réactivée d'une certaine manière.
Effectivement, après les attentats de 2015, l'état d'urgence est une s'ancre dans l'histoire coloniale française, puisque c'est la loi de 1955, qui avait ensuite été activée en Nouvelle-Calédonie, qui a été ensuite activée dans les banlieues françaises en 2005, vue d'une certaine façon comme des espaces à reconquérir, un vocabulaire qui renvoie très directement au vocable de la période coloniale. Et il est vrai que soit la trajectoire migratoire d'une partie des personnes qui ont commis ces actes, soit leur nationalité, renvoie aussi à cette imbrication franco-algérienne. Et chacun savait que quand François Hollande parlait de déchéance de nationalité, les personnes qui seraient visées seraient avant tout des personnes issues de cette histoire migratoire, puisque depuis plusieurs décennies, les changements dans la nationalité ont avant tout été pensés en fonction de cette focale algérienne.
On s'achemine vers la fin de cette émission. Emmanuel Blanchard, je reviens une dernière fois à votre histoire de l'immigration algérienne en France. Elle s'ouvre par un souvenir un peu cuisant. C'est celui de la première confrontation sportive entre l'équipe nationale de France et l'équipe nationale d'Algérie. C'était en octobre 2001.
Oui, c'était un match de foot, Patrick Boucheron, qui a eu lieu au Stade de France. Et c'était la première confrontation entre l'équipe de France de football et l'équipe algérienne de football, sinon une confrontation au cours des Jeux de la Méditerranée, au cours des années 1970. Et ce match amical n'est jamais arrivé à son terme, puisque de fait, il est très compliqué pour ces deux équipes de s'affronter tant elles sont mêlées. Et ce que je rappelle dans cette introduction, c'est qu'aujourd'hui, encore, en tout cas dans les deux dernières Coupes du Monde auxquelles a participé l'équipe d'Algérie, plus des deux tiers des joueurs de l'équipe d'Algérie étaient nés en France et avaient la nationalité française. C'était des binationaux, pour utiliser le vocable généralement mobilisé dans ce cas-là. Et là, encore une fois, nous avons affaire à quelque chose de singulier. L'équipe du Maroc puise beaucoup dans les descendants d'émigrés, mais elle puise aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en France. Et là, il n'y a pas d'autre exemple d'une certaine façon, d'une équipe qui son vivier principal dans un seul pays, et un pays qui plus est, qui est la puissance coloniale battue en 1962, et battue avant tout, non pas dans l'arène militaire, mais avant tout dans l'arène diplomatique. Et dans cette arène diplomatique, du point de vue du soft power, un élément qui va jouer grandement en faveur de la sympathie pour les Algériens était sa glorieuse équipe du FLN, composée pour partie de joueurs qui auraient dû jouer la Coupe du Monde 1958 en Suède sous le maillot français.
Alors que si on fait un pas en arrière, si on se trouve en 1982, les deux équipes de France et d'Algérie, là pour le coup c'était la première fois que l'Algérie était à la Coupe du Monde, étaient très différentes.
Effectivement, ces équipes étaient très différentes. Encore une fois, si on veut mettre au jour des singularités, il est très étonnant qu'il y ait si peu d'enfants de l'immigration algérienne à jouer dans ces équipes de France. L'équipe de France de...
C'est l'équipe de Platini. Hein.
Voilà, c'est 82, c'est l'équipe de Platini. Dans les années 50, il y a 3 ou 4 enfants de Polonais qui jouent en équipe de France. Et ben, en 1982, il y a des descendants de ceux qu'on appelle les pieds noirs, mais il n'y a pas de descendants des immigrés algériens, puisque ces enfants, quand ils jouent au football à haut niveau, il joue dans l'équipe d'Algérie. Ce qui est très différent, encore une fois, d'autres immigrations qui ne dit rien sur la position sociale occupée par ces personnes en France et leur capacité à vivre et contribuer à moult domaines de la vie économique et sociale, mais qui dit beaucoup sur le fait que les affinités, les imaginaires sont partagé.
Merci Emmanuel Blanchard.
Je vous remercie Patrick Boucheron.
Matière à penser, Emmanuel Blanchard, Valérie Lavalard, Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devigne, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Charlotte Castelnau-L'Étoile. Bonne soirée.